Rémi, donc tu es l'auteur d'un livre qui est sorti chez Omniscience qui s'appelle Les utopies post-humaines, contre-culture, cyberculture et culture du chaos. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire?
Eh ben, en fait, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'était des idées qui m'intéressaient depuis longtemps. Et un jour, en discutant avec une des personnes qui allait devenir mes éditeurs, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de livre introductif sur cette espèce de contre-culture technologique, que c'était quelque chose de totalement inconnu en France et qu'il n'y avait rien pour le grand public qui lui permettrait de pénétrer là-dedans, ce qui est dommage parce que c'est une culture qui effectivement pénètre complètement l'Internet, par exemple. Donc c'est assez important de la connaître aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'implique ce concept de contre-culture ?
Alors en fait, bon, la contre-culture, c'est quelque chose de très général. Il y en a des centaines des contre-cultures. Hein. Mm-hmm. La contre-culture que j'aborde spécifiquement dans ce bouquin, bon, c'est ce que j'appelle la contre-culture technologique, ouais. Et qui est liée, bon, historiquement, à ce qu'on a appelé la contre-culture américaine, c'est-à-dire grosso modo ce qu'on appelle le mouvement hippie.
D'accord.
Hein, donc j'emploie contre-culture dans plusieurs sens, c'est-à-dire dans le sens d'abord historique, c'est-à-dire ce mouvement des années 60 lié au mouvement hippie, mm-hmm. Et aussi l'idée d'une culture qui n'est pas reconnue, c'est-à-dire qui existe, qui a de l'influence et qui n'est pas reconnue, je dirais, par les voies officielles. C'est pas forcément une culture qui se veut subversive ou attaquante.
D'accord.
Je dirais qu'elle est contre-culture comme on peut parler d'un contre-champ. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'idées qui flottent,
ouais.
Et qui n'ont pas de voix précise et officielle qui permet de dire ça, c'est la culture qui existe à cette époque. Bon, par exemple, c'est effectivement les idées qui passent dans la science-fiction, dans la bande dessinée, chez des auteurs un petit peu borderline, etc.
Justement, dans ton ouvrage, tu cites beaucoup de personnages donc qui ont marqué l'histoire de cette contre-culture. Donc, est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu la sainte trinité de la contre-culture? Donc, déjà en commençant par le personnage le plus emblématique selon toi.
Ah, le personnage le plus emblématique, c'est Timothy Leary. Ça ne veut pas dire que la contre-culture, c'est lui.
Ouais.
Hein? C'est-à-dire que Timothy Leary est quelqu'un qui fait un petit peu penser, je dirais, à David Bowie.
Ouais.
En ce sens que c'est quelqu'un qui a senti, puisqu'il est mort maintenant, où le vent tournait à chaque fois et qui a su s'entourer des bonnes personnes et être influencé par les bonnes personnes.
D'accord.
Donc, c'est pas quelqu'un qui est, je dirais, complètement à l'origine de tous ces mouvements, mais c'est quelqu'un qui en a été, en quelque sorte, le miroir le plus fidèle.
Ouais.
Alors donc, dans cette Sainte Trinité, on met bien entendu Timothy Leary en premier. Quelqu'un comme Stewart Brand est extrêmement important, mais discret, par exemple.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler donc qui est ce
Stewart Brand?
Stewart Brand,
c'est quelqu'un, justement, c'est assez curieux parce que quand j'ai écrit le livre, je le considérais pas spécialement comme quelqu'un d'important. Et c'est petit à petit en l'écrivant que je me suis dit, mais il a été là. Stewart Brand est quelqu'un qui était dans les années 60 aux côtés de Ken Kesey, c'est-à-dire les premiers hippies, le groupe rock Grateful Dead, etc., qui ensuite a été l'un des premiers popularisateurs de l'ordinateur personnel,
ouais.
Du micro-ordinateur, et qui donc, en gros, est un personnage qui traverse toute l'histoire, qui va des débuts de ce qu'on appelle pour le coup la contre-culture, jusqu'à ce qu'on a vraiment appelé la cyberculture, la culture de la Silicon Valley, etc. Et il a été très influent à tous ces niveaux. Donc c'est quelqu'un de très très important, mais de très discret, finalement, dans sa carrière. Et enfin, dans la Sainte Trinité, il y a quand même un écrivain très important, c'est William Burroughs, qui lui aussi fait le lien, alors je dirais, entre les trois phases de la contre-culture, c'est-à-dire la contre-culture hippie, et pour cause, puisque c'est un des auteurs de la Beat Generation, la cyberculture, par son goût pour les ordinateurs, pour les théories de l'information, etc., et enfin, ce que j'appelle la culture du chaos, c'est-à-dire, effectivement, cette espèce de mélange de biologie et d'occultisme qui caractérise un petit peu les courants underground aujourd'hui.
Dans ton livre, tu parles notamment d'un ouvrage de Bruce Sterling, donc qui s'appelle La Schismatrice, et dans ce livre, on voit l'humanité se diviser en différentes sphères d'évolution, et donc, est-ce que toi, tu vois une direction particulière s'ouvrir plus nettement que les autres actuellement?
Ben, je pense que la direction particulière, ça va justement être la schismatrice.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a division, c'est-à-dire que les gens commencent à se composer pour l'instant leur propre culture, hein, notamment en allant sur simplement en se connectant sur les sources d'information qu'ils préfèrent, commencent à adopter leur propre esthétique. Et imaginons un petit peu la suite avec les implants cérébraux, avec tout ce qui peut suivre sur le plan scientifique, jusqu'où les gens vont pouvoir se recréer eux-mêmes.
Et donc pour toi, donc puisqu'on parle comme ça d'événements clés, quels sont les événements les plus significatifs, disons ces 10 dernières années ou même ces 20 dernières années, de l'avènement d'une post-humanité?
Bon bah alors on va parler du plus symbolique, hein, c'est-à-dire celui qui fait que maintenant tout le monde parle de post-humanité et que personne n'en parlait il y a quelques années, c'est le clonage.
Ouais.
Bon, ceci dit, c'est vrai que est-ce vraiment quelque chose de si fondamental que ça? C'est-à-dire que ça a beaucoup marqué les esprits. Est-ce que même si demain, bon, c'est vrai que le clonage thérapeutique serait une chose absolument extraordinaire, même si demain le clonage reproductif se répandait, est-ce que ça changerait tellement les choses? Personnellement, j'en suis pas complètement persuadé. Bon, pour en revenir aux choses importantes, je pense que bon, l'internet qui a maintenant plus de 10 ans.
Ouais.
Et quand même quelque chose qui est d'une importance absolument fondamentale. C'est-à-dire, je pense que c'est quand même ce qui va contribuer le plus encore à changer les mentalités. Alors maintenant, ce qui risque de se passer, qui est lié à l'internet et ce que Howard Rheingold appelle les smart mobs, etc., et dont je traite un peu dans la partie sur la culture du chaos, c'est effectivement c'est pas vraiment une technologie, c'est plutôt un concept. Il va falloir de plus en plus se frotter à la notion d'intelligence collective.
Ouais. L'idée de cerveau global dont parle Howard Bloom, par exemple, dont tu parles aussi dans ton livre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se retrouver de plus en plus avec des... Bon, ça a toujours été le cas, hein, des phénomènes émergents de foule, de culture, etc. Il y en a toujours eu, quoi. Mais c'est vrai que quelque part, ils étaient hors de la sphère de la réflexion scientifique ou de la réflexion pratique.
Ouais.
Et que maintenant, il va falloir commencer à y penser très sérieusement. Et c'est vrai qu'avec l'Internet, avec les portables, etc., et imaginons la suite, des réalités virtuelles, des implants, etc., on va se retrouver face à des émergences de phénomènes collectifs qui vont être tout à fait nouvelles et qu'il va falloir commencer à comprendre.
Et donc, si par exemple, on pouvait spéculer librement là maintenant tout de suite, comment, ou plutôt, qu'est-ce que toi tu aimerais voir d'ici 20 ans par exemple, comme grand changement fondamental?
D'ici 20 ans, bon, moi ce que j'aimerais voir, c'est bon, effectivement les progrès de la médecine, je crois que tout le monde, tout le monde le souhaite. Hein.
Les fameux trois ponts là dont tu parles aussi.
Oui, ça c'est un autre sujet, c'est effectivement la théorie de Ray Kurzweil sur l'accession à l'immortalité. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, d'après Kurzweil et d'autres auteurs, on serait pas loin d'abolir complètement le vieillissement.
Ouais.
Bon, est-ce possible? Ne l'est-ce pas? Ça, je trouve que ça serait une très bonne idée, mais ça s'arrête là pour moi, quoi. C'est-à-dire, effectivement, je peux pas aller plus loin dans les affirmations. Et ce que dit Kurzweil, c'est qu'en fait, il y a trois ponts. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pont, c'est avoir aujourd'hui une vie très saine.
Ouais.
Qui nous permet d'atteindre le deuxième pont d'ici les années 2010-2020, où on commencera à bénéficier de nouvelles thérapies, de médicaments géniques, etc., qui nous permettront de reculer encore plus le vieillissement.
Ouais.
Et enfin d'atteindre le troisième pont, qui est en gros celui du cyborg, où notre corps sera progressivement remplacé ou doublé par une équipe de nanorobots, d'organes artificiels, etc., ce qui nous assure une immortalité totale sur je dirais pas l'infinité du temps, puisqu'un jour les protons eux-mêmes disparaîtront, mais disons sur un certain temps, quoi.
Et alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, une des idées les plus excitantes que tu évoques aussi, c'est celle d'uploading du cerveau, donc transférer le contenu d'un cerveau dans une machine, et puis donc là, par définition, devenir totalement immortel.
Oui, alors ça, c'est vraiment l'idée c'est l'idée centrale de ce qu'on a appelé le mouvement transhumaniste, extropien, etc., qui est un mouvement américain. C'est une assez vieille idée de science-fiction, d'ailleurs, d'uploading, parce que... Bon, si mes souvenirs sont bons, on la retrouve plus ou moins dans Zardoz, même dans les vieux Bob Moran que je lisais quand j'étais gosse, l'ombre jaune s'uploadait d'un corps à l'autre.
Ouais.
Donc c'est une assez vieille idée, mais dont on commence à penser sérieusement qu'effectivement, sachant que bon, notre cerveau est un ensemble de connexions, si on arrive à scanner l'ensemble des connexions qui forment ce cerveau, qui forment notre esprit, pourquoi ne pas les reproduire sur un meilleur support?
Voilà, absolument. Et donc justement, dans ton livre, tu parles de scientifiques et donc qui auraient imaginé des formes plus optimales pour servir l'intelligence. Donc, des espèces
tout à fait.
De...
Ça, c'est Moravec, par exemple.
Voilà.
C'est-à-dire, effectivement, bon, et ça, sur ce point, moi, je suis un petit peu suis un petit peu réservé, c'est-à-dire que Moravec parle de ce qu'on appelle le robot, enfin de ce qu'il appelle le robot arborescent, ouais. qui est une espèce d'arbuste qui dont les branches vont jusqu'à la taille, sont capables de manipuler jusqu'à des atomes, quoi, et qui peut lui-même atteindre par contre une taille gigantesque et qui permettrait effectivement, c'est une créature purement spatiale qui n'a même plus besoin de planète pour vivre.
Voilà. Pour revenir sur Timothy Leary, lui, Timothy Leary, il avait émis l'envie de se faire cryogéniser.
Oui, tout à fait.
Et donc, finalement, la cryogénie, c'est une technologie qui était censée amener à l'immortalité en congelant les personnes malades, par exemple, et en imaginant que dans 50 ou 60 ans, on puisse les guérir, les faire revenir et donc les soigner. Et cette technologie-là, elle est un peu tombée en désuétude récemment, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait très peu de chances quand même qu'un cerveau congelé survive et tienne le coup durant l'opération.
Comme a dit quelqu'un, et ça je sais plus quel est l'auteur, c'est dommage, ça revient à essayer de prendre un hamburger et de le retransformer en vache quand même.
Voilà, ouais, absolument.
Alors là-dessus, les cryonicistes qui sont au courant de ça, qui sont pas des parmi les plus intelligents, parce qu'il y en a qui sont vraiment naïfs, etc., reconnaissent ces faits et disent oui, mais avec la nanotechnologie, on pourra reconstruire.
Absolument.
Alors là, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire qu'effectivement, ça devient du décryptage d'une information qui a été perdue.
Dans ton livre, tu parles de la nanotechnologie et tu cites notamment quelques experts du domaine qui imaginent une machine qui permettrait de fabriquer absolument tout ce qu'on veut, puisque les nanorobots pourraient agréger des molécules de tout et de n'importe quoi pour créer tout et n'importe quoi. Et donc là, ça serait une espèce de graal ultime. On aurait une machine à fabriquer de la réalité.
Dans Star Trek, hein, quand ils demandent, ils ont un synthétiseur de nourriture en fait, et ils disent bon, je voudrais un ractagino frappé, et immédiatement apparaît un verre avec la boisson demandée, etc. C'est un assembleur de type assembleur nanotechnologique. Ce qui est un peu paradoxal dans Star Trek, c'est qu'ils ont d'un côté cette technologie et que de l'autre côté leur vaisseau spatial a un côté années 50 qui est tout à fait retardataire par rapport à ce qu'ils possèdent à côté, quoi.
Ouais.
Bon, maintenant c'est pareil, l'assembleur, pareil, moi j'ai pas le niveau pour dire c'est possible, c'est pas possible, hein, c'est pas du tout mon propos. Je constate seulement que la nanotechnologie, contrairement à la cryonique, est devenue une vraie science, mais au prix de l'abandon de ce genre d'idées.
Ouais.
C'est-à-dire que bon, on est beaucoup plus modeste maintenant.
Rémi, je te remercie. Je rappelle donc que ton livre « Les utopies post-humaines » est sorti chez Omniscience. Et donc, évidemment, je le conseille à tout le monde. Je te remercie et te dis à bientôt.